Salut tout le monde, les amis. C'est toujours cool de vous voir tous ici le jour du sabbat. Au début, ou plutôt à la fin de l'année 2025, un studio de cinéma appelé Angel Studio a sorti un film d'animation intitulé David. Combien d'entre vous se souviennent avoir vu la pub pour ce film? Bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer, en tant que chrétien, cela a attiré mon attention. Je suis sûr que cela a aussi attiré l'attention de beaucoup d'entre vous. Le film racontait l'histoire de la rencontre entre le jeune David et le géant Goliath. Le film a été super bien reçu et a fini par. Je crois que, au final, il a rapporté plus de 78 millions de dollars au box-office, juste en étant diffusé dans différents cinémas à travers le pays, voire à travers le monde. Il y a peut-être eu des projections à l'international aussi. Mais le film a très bien marché, surtout pour Angel Studio. C'était leur film le plus rentable jamais réalisé. Et je suis sûr que partout dans le monde, même les gens qui ne sont pas chrétiens ou qui ne s'intéressent pas particulièrement à la religion, sont captivés ou inspirés par l'histoire de David et Goliath. Ce récit particulier des Écritures semble avoir un effet profond sur les gens. Même les gens qui ne se disent pas chrétiens, sans parler des chrétiens du monde entier, sont captivés par cette histoire ou cette rencontre. Qu'est-ce qui a fait ou fait que l'histoire de David et Goliath, tous les événements qui y ont mené, l'événement lui-même et les événements qui ont suivi, captivent autant l'attention des gens? Pourquoi les gens sont-ils si captivés par cette histoire plusieurs milliers d'années plus tard? Peut-être est-ce l'histoire d'un outsider qui triomphe, ou celle du bien contre le mal. Si l'on y réfléchit, il existe de nombreux films et récits qui abordent ce thème, ou encore celui du courage qui triomphe de la peur. Il y a plein de nuances et de thèmes dans ce récit qui rendent cette histoire si inspirante pour les gens. Je pense qu'une partie de la raison pour laquelle cette histoire a traversé le temps, c'est parce qu'on peut vraiment s'identifier à David. Chacun de nous peut s'identifier à quelqu'un comme David, surtout si on connaît bien sa vie, ses origines modestes et la façon dont il a surmonté tant d'épreuves. Je pense que son histoire est très accessible aux gens. On a tous vécu des moments à la David et Goliath. Ces moments dans notre vie où, contre toute attente, on a réussi à vaincre un géant proverbial dans notre vie. Je pense que cela rend cette histoire encore plus marquante. C'est le côté accessible de David. On peut tous se reconnaître en lui. Ce qui ressort vraiment dans cette histoire, et qui, je pense, contribue grandement à la rendre mémorable, c'est l'incroyable démonstration de foi de David. Cette rencontre avec Goliath était une incroyable démonstration de foi. Cette foi qui lui a permis de défier toutes les probabilités, de combattre ce géant que tout le monde, y compris le roi Saül et toutes les armées, craignait. C'était un Philistin. Ils avaient peur de lui. Et David était très différent. Il avait la foi, le courage, mais il était animé par la foi pour affronter et finalement vaincre Goliath. Et je pense que c'est cette foi qui ressortait vraiment. Maintenant, si vous y réfléchissez bien, j'y ai réfléchi. Vous devriez imaginer réfléchir à un message, préparer un message comme celui-ci. Si vous y réfléchissez vraiment sur le papier, beaucoup de gens s'émerveillent de la foi de David. Ils se disent, oh là là, il a été si fidèle pour affronter ce géant et croire en Dieu. Eh bien, si vous y réfléchissez sur le papier, la foi de David était très logique. Elle était tout à fait sensée. Soit je m'avance, et j'ai peur de ce géant qu'est Goliath, soit j'ai foi en Dieu. Maintenant, qui est le plus grand? Dieu ou Goliath? Bien sûr, encore une fois, quand on y réfléchit bien, on se rend compte que Dieu est beaucoup, beaucoup plus grand que Goliath. Aussi grand et menaçant que fut Goliath, il ne pouvait pas tenir tête au Dieu de l'univers. La foi de David était donc tout à fait logique. Je vais bien sûr choisir de me ranger du côté du Dieu de l'univers plutôt que d'avoir peur de ce géant. Mais le truc, c'est que Goliath était là, et David pouvait le voir, tout comme les autres. Les gens ne peuvent pas voir Dieu. On ne peut pas voir Dieu littéralement devant nous. C'est là que la foi entre en jeu et que cela devient vraiment, vraiment, vraiment différent. Mes frères, comment ta foi se compare-t-elle à celle de David? Si tu fais un peu d'introspection et que tu réfléchis à ta foi, on est tous chrétiens. Bien sûr, on est censé être fidèle. On est censé avoir la foi. Comment ta foi se compare-t-elle à celle dont David a fait preuve face à Goliath? Comment ta foi se mesure-t-elle? Je suis sûr que c'est une des principales raisons pour lesquelles Dieu a partagé ce récit avec nous, avec son peuple, et pourquoi on l'étudie encore aujourd'hui. Mais comment ta foi se mesure-t-elle à celle de David lorsqu'il a combattu Goliath? Je ne présumerai pas que tu aies une réponse. Certains d'entre vous diront peut-être, je ne sais pas. D'autres penseront peut-être, je m'en sors plutôt bien. D'autres encore savent qu'ils ont du travail à faire. Mais je ne présumerai pas que, simplement parce que vous fréquentez l'Église depuis longtemps, vous avez automatiquement la foi nécessaire. Vous pourriez penser, d'accord, je suis dans la voie de Dieu depuis des décennies, et j'ai vu beaucoup de choses se produire dans ma propre vie et dans celle des autres. Et, vous savez, j'ai vu des miracles et des choses de cette nature, vous savez, donc je m'en sors plutôt bien. Eh bien, frères, je voudrais nous mettre en garde. Nous devons être très prudents et ne pas penser, simplement parce que, par exemple, nous sommes dans l'Église de Dieu ou sur le chemin de Dieu depuis longtemps, que nous avons la foi que nous devrions avoir. En fait, vous savez, nous pouvons regarder cela, et je me souviens du Christ. Il parlait à ses disciples, et je crois que c'était dans le récit où il y avait plein d'enfants autour, et Christ a profité de ce moment pour désigner un de ses enfants, et il a parlé de recevoir le royaume comme un petit enfant pour y entrer. Donc, ce qu'il voulait dire, c'est qu'on doit recevoir le royaume de Dieu. On doit recevoir l'évangile, la bonne nouvelle, l'œuvre, la raison pour laquelle on est tous ici. On doit recevoir cette vérité et tout ce qui va avec. On doit recevoir cela comme le ferait un petit enfant, et cela demande de la foi, bien sûr. On a donc là un exemple très concret où Christ montre les enfants et dit que leur foi suffit, parce qu'il la compare à la nôtre, et qu'elle suffit pour qu'on puisse entrer dans le royaume de Dieu. Dans ce cas, les enfants peuvent faire preuve de plus de foi qu'un adulte, y compris un adulte qui suit le chemin de Dieu depuis des décennies. On ne doit donc jamais supposer qu'on ne peut pas accroître notre foi, qu'on ne peut pas faire un peu mieux ou beaucoup mieux en matière de foi. Notre objectif en tant que chrétien devrait être d'égaler, au minimum, le niveau de foi dont David a fait preuve lorsqu'il a affronté Goliath. Notre but devrait être d'égaler, voire de dépasser, la foi dont David a fait preuve sur le champ de bataille. Cette foi, la foi de David, l'a motivé au point qu'il était prêt à se battre pour elle. Il était prêt à se battre, à partir en guerre, à risquer sa vie pour la foi qu'il avait. Il était prêt à se battre pour elle. La foi de David valait la peine de se battre. Mes frères, votre foi vaut-elle la peine de se battre pour elle? Est-ce quelque chose pour lequel vous êtes prêt à prendre les armes et à vous battre? Votre foi, ma foi, est-elle si importante pour vous, ou dans mon cas, si importante pour moi que je suis prêt à me battre? Eh bien, mes frères, explorons le sujet de la foi et déterminons, en fait, Examinons et déterminons si notre foi vaut vraiment la peine de se battre pour elle. Ouvrez votre Bible au chapitre 6 de la première épître à Timothée. Je continue à parler de la foi et j'ai commencé par présenter la foi, dans ce cas-ci, la foi de David, et je la relis au combat. Pourquoi ai-je fait cela? Première épître à Timothée, chapitre 6. Première épître à Timothée, chapitre 6, nous allons nous arrêter au verset 11. Première épître à Timothée, chapitre 6, verset 11. Mais toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi. Vous remarquez qu'il y a là la foi, l'amour, la patience, la douceur. Verset familier. Verset 12. Combat le bon combat de la foi. Vous savez, tant de fois au fil des ans, j'ai entendu dire, combat le bon combat. Sors et combat le bon combat. On sait tous qu'on est des guerriers chrétiens, qu'on est sur le champ de bataille, qu'on est des soldats qui se battent pour Jésus-Christ, bien sûr, qui se battent pour le Père. Mais je dois admettre que je n'avais pas forcément fait le lien entre cette idée de combattre le bon combat de la foi. Faire le lien entre ce combat et le relier directement à la foi. Si tu regardes la liste précédente, il y avait beaucoup de choses énumérées. La justice, la piété, la foi, comme on l'a lu, l'amour, la patience et la douceur. Mais il est dit de mener le bon combat de la foi. Le verset 12 poursuit en disant, « Saisis la vie éternelle. » Je vous imagine en train d'attraper quelque chose et de le serrer très fort dans vos bras. Vous vous en emparez. Vous ne le lâchez pas. Vous le serrez fort pour qu'il ne vous échappe pas. Dans ce cas, on s'empare de la vie éternelle. On la serre fort, on la serre dans nos bras. On ne laisse pas passer cette opportunité, cette chance d'avoir la vie éternelle, on ne la laisse pas s'échapper. C'est à ce point important pour nous. Et, pour continuer dans le verset, c'est à cela que vous avez été appelés, et vous avez fait une belle profession de foi devant de nombreux témoins. Et cela me fait penser au baptême. Beaucoup d'entre nous ont été baptisés. Il y avait plein de témoins. Évidemment, les anges dans le ciel se réjouissaient alors que nous étions tous ajoutés au corps du Christ. Ceux qui sont membres potentiels, c'est ce à quoi vous pouvez vous attendre. Être ajouté au corps du Christ parmi plein de témoins. Récemment, on a eu un baptême ici, au siège. C'était une occasion de se réjouir encore une fois. Et tout était super bien. Avant d'approfondir encore plus, restons dans la première épître à Timothée et revenons au chapitre 1. Première épître à Timothée, chapitre 1. On a vu qu'on mène le bon combat de la foi. On s'empare de la vie éternelle. Première épître à Timothée, chapitre 1, verset 18. Je te confie cette mission, mon fils Timothée. C'est Paul qui forme Timothée et lui parle. Conformément aux prophéties qui ont été faites à ton sujet, afin que, par elles, par ces prophéties, tu mènes le bon combat. Gardez la foi. On est donc passé du combat à la guerre. La guerre, c'est plein de combats qui se déroulent en même temps ou les uns après les autres, simultanément. Gardez la foi dans une bonne conscience. On voit donc le mot « bon » utilisé une fois de plus. On ne fait pas toujours le lien entre la foi et le combat. Du moins, je ne l'ai pas toujours fait. Après aujourd'hui, c'est quelque chose que je veux que vous fassiez tous. Cette idée de foi et de combat. Mais on ne fait pas toujours le lien entre la foi et le combat, et encore moins la guerre. On sait qu'il y a une guerre chrétienne. Mais là, on parle surtout de foi. Se battre, quand on se bat, c'est une lutte personnelle. Parfois. C'est au corps à corps, ou à l'arme contre l'arme. Ça peut être super viol. Ça peut te prendre beaucoup d'énergie. Tu peux être super épuisé quand tu te bats. Je pense à un boxeur, à un lutteur ou à un vrai soldat qui se bat. Ça peut être super fatigant, et c'est personnel. Dans certains cas, c'est un combat en tête-à-tête. Et la guerre, c'est une campagne plus large. C'est un engagement à vie. Certaines personnes consacrent leur vie à la guerre physique, et aux soldats. Mais si vous vous battez, cela veut automatiquement dire qu'il y a de la résistance. Donc, si on mène le bon combat de la foi, il y a par définition une résistance à ce combat. Il y a une résistance à cet objectif de foi. Ce n'est pas quelque chose de facile à faire. Si c'était facile, ce ne serait pas vraiment un combat. Et tout aussi important, tout comme il y a de la résistance quand il s'agit de se battre, il y a aussi la possibilité de perdre. Tu peux perdre le combat. On peut perdre un combat. La victoire n'est pas forcément garantie quand on se lance dans un combat, surtout un bon combat, un combat contre un adversaire très compétent. Il y a cette résistance qui peut mener à la défaite. Mais ce qui m'a vraiment marqué, et je le répète plusieurs fois, vous l'avez vu là-bas. Peut-être que cela vous a marqué aussi. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est que ce combat a été qualifié de bon combat ou de bonne guerre. Combattre et être bon? La guerre et être bon? Vous savez, j'ai passé ma vie à essayer d'éviter les combats. Je ne cherche pas à me battre avec les gens, à me faire frapper ou à frapper quelqu'un. Je suis sûr qu'aucun d'entre nous ne cherche à faire cela. On regarde les guerres et les batailles qui ont lieu, les batailles physiques qui ont lieu dans ce monde. Et ces guerres et ces combats sont mauvais. Mais ici, on nous dit que le combat est bon, que la guerre est bonne. Regarde cela. Le mot « bon » est « kalo », et il peut signifier « beau ». Donc, non seulement le combat est bon, mais ce mot « bon » te fait penser, HMM, c'est intéressant. Mais ce mot peut en fait être traduit par « beau ». C'est un beau combat. C'est une belle guerre. Regarde. C'est ce qui est écrit. C'est ce que cela veut dire. Un beau combat, une belle guerre. Dieu dit que le combat pour la foi est beau. Ça peut être une belle lutte, une belle guerre ou une belle bataille. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, parce que quand on se bat pour la foi, dans ce cas, le but est d'avoir plus de foi. La foi nous rend plus forts et nous construit. C'est une belle chose. Le beau combat que nous menons tous est contre Satan, la société et nous-mêmes. Quand on a un guerrier très compétent, qui est habile et sait comment se battre, que ce soit contre Satan, contre la société ou contre nos propres luttes. Quand on est habile dans ce domaine et qu'on sait comment s'y prendre, cela me fait penser à David. On parlera beaucoup plus de lui. Quand on voit ce guerrier habile et capable de le faire, cela peut être une très belle chose. Cette foi pour laquelle on se bat protège notre relation avec Dieu. Encore une fois, c'est très beau, très bon. On veut tous avoir notre relation avec Dieu. En fin de compte, ce beau combat pour le bien et pour la vie éternelle. Cette vie éternelle qu'on nous a dit de saisir et de ne pas lâcher. Qu'est-ce qui pourrait être plus beau que cela? Imagine atteindre le but, saisir et garder la vie éternelle, et finalement y avoir droit et l'avoir. Le combat de David contre Goliath était un beau combat. C'était un bon combat. C'était un combat de foi. C'est pour cela que Dieu s'est impliqué. C'est pour cela que Dieu s'est impliqué dans cette bataille en particulier, dans ce combat en particulier. Quand on étudie et qu'on regarde la rencontre de David avec Goliath, Cette histoire inspirante qui captive tant de gens, elle montre plein de principes de base de la foi. Plein de versets viennent probablement à l'esprit à propos de la foi et de son importance. Des versets fondamentaux de la foi que nous connaissons tous très bien. On va les passer en revue. On va examiner cette rencontre avec Goliath. Je vais vous le prouver. Je vais vous montrer, et on va en quelque sorte passer en revue et cocher et voir comment cette rencontre entre David et Goliath, comment elle coche tant de versets fondamentaux en matière de foi. Et le but, mes frères, c'est quoi? C'est de vous inspirer, nous tous. Je suis inspiré. Je sais où je vais. Vous le saurez bientôt. Mais le but, c'est de vous inspirer tous pour que, comme David, vous soyez prêts, capables et aptes à mener le bon et beau combat de la foi. Allons au chapitre 17 du premier livre de Samuel. C'est là qu'on peut lire le récit de la rencontre entre David et Goliath. Comme je l'ai dit, on va le parcourir et relier plein de versets fondamentaux sur la foi, dont la plupart, voire tous, se trouvent dans le Nouveau Testament. On va donc passer de l'Ancien au Nouveau Testament. Mais on va commencer par la rencontre elle-même, dans le premier livre de Samuel, chapitre 17. On va tout parcourir et tout relier. C'est incroyable. Même si ce récit est super connu, chaque fois que je le lis, j'en tire quelque chose de nouveau. Il y a des détails dans cette histoire ou ce récit. J'ai tendance à l'appeler un récit. Le mot « histoire » peut faire penser à une histoire pour s'endormir, donc à quelque chose d'inventé. Eh bien, non, cela s'est vraiment passé. Toutes ces choses se sont vraiment passées. C'est donc un récit biblique. Mais il y a tellement de détails ici qui me reviennent à l'esprit au fur et à mesure qu'on avance. Commençons donc. Premier livre de Samuel, chapitre 17, verset 2. Premier livre de Samuel, chapitre 17, verset 2. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent, campèrent dans la vallée d'Éla et se rangèrent en bataille contre les Philistins. Comme je l'ai mentionné, Goliath était un Philistin et Israël était en guerre contre les Philistins. Verset 8. Il se tint debout et cria vers les armées d'Israël. C'est Goliath. Et leur dit, « Pourquoi êtes-vous sortis pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas un Philistin, vous, serviteur? Et vous, serviteur de Saül? Donc, je suis un Philistin, vous servez Saül. Choisissez un homme parmi vous et qu'il descende vers moi. » Il défie donc les armées. Il n'en a aucune idée. Goliath n'a aucune idée de qui se trouve dans cette armée. Mais il était assez audacieux pour penser, « Vous savez quoi? Je me fiche de savoir qui se trouve dans votre armée. Ils ne peuvent pas me vaincre. » Verset 10. Et le Philistin dit, « Je défie aujourd'hui les armées d'Israël et donnez-moi un homme pour que nous puissions nous battre ensemble. » Verset 11. Quand Saül et tout Israël entendirent les paroles du Philistin, ils furent consternés. Il était donc très audacieux. Il ne se souciait pas de ce qu'Israël avait à offrir. Israël, en revanche, était très inquiet, consterné, comme le dit le texte, et très effrayé. Au cas où vous ne sauriez pas ce que signifie consterné. Très effrayé. Verset 19. Or, Saül et eux et tous les hommes d'Israël étaient dans la vallée d'Éla, combattant les Philistins. Verset 24. Et tous les hommes d'Israël, quand ils virent cet homme, s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Ils ont donc vu Goliath. Ils avaient très, très peur. Frères et sœurs, ces hommes manquaient de foi. Ces hommes manquaient de foi. Ils avaient peur. Ce manque de foi a conduit à la peur. On parle d'armées, de dizaines et de dizaines, de centaines, de milliers d'hommes, tous effrayés. Tous effrayés. La foi, mes frères, la foi est très rare. La foi est très rare. Laissez-moi vous le prouver. Je sais que vous le savez, mais laissez-moi vous le prouver. Luc 18. Vous pouvez garder votre main là ou mettre un marque-page dans un Samuel 17. Mais la foi est très rare. Luc 18. Luc 18, verset 7. Luc 18, verset 7. Et Dieu ne vengera-t-il pas ses élus? On est les élus de Dieu. Au fil des siècles, de nombreux chrétiens ont été tués ou sont morts dans la foi, ce sont les élus de Dieu. Dieu ne vengera-t-il pas ses élus, qui crient jour et nuit vers lui, bien qu'il tarde à leur répondre? Je vous le dis, il les vengera rapidement. Dieu n'a donc pas oublié ses élus. Néanmoins, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Réfléchissez-y. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parlons de l'élargissement du champ d'action lorsqu'il s'agit d'identifier et de trouver la foi. Il est décrit, Christ est décrit comme recherchant la foi sur toute la terre. Toute la population de la terre. Je peux l'imaginer parcourant la terre à la recherche de ceux qui sont fidèles. La foi est très rare. Tout le monde ne l'a pas. Pas la foi pieuse dont parlent les Écritures. Quelle est la foi que Dieu recherche? Quelle est cette foi que Dieu recherche? Revenons au premier livre de Samuel. On a vu que la foi est très rare. Les armées d'Israël le prouvent. Elles étaient toutes terrifiées. Mais quelle est la foi que Dieu recherche? Premier livre de Samuel, chapitre 17, verset 32. Premier livre de Samuel, chapitre 17, verset 32. Et David dit à Saül que personne ne s'effraie à cause de lui, à cause du géant. Ton serviteur ira combattre ce Philistin. Donc, parmi toutes ces armées, il y a ce jeune homme qui dit, « Tu sais quoi, je suis différent. » Encore une fois, cela montre que la foi, c'est super rare. Verset 33, et Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller combattre ce Philistin. » À quoi penses-tu, jeune homme? À quoi penses-tu? Tu ne peux pas faire cela. Manque de foi. Tu n'es qu'un jeune homme, tu n'es qu'un jeune homme. Et lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Tu es encore un jeune homme. Lui, il se bat depuis sa jeunesse. Verset 34. Et David dit à Saül, ton serviteur gardait les brebis de ton père. Et un lion et un ours sont venus attaquer le troupeau. Je suis allé après lui. Je l'ai frappé et je l'ai délivré de sa gueule. Et quand il s'est dressé contre moi, je l'ai saisi par la barbe, je l'ai frappé et je l'ai tué. Oui, je suis peut-être jeune. Je suis peut-être jeune, mais j'ai de l'expérience. Ma foi a déjà été mise en évidence. Ma foi a déjà été prouvée. J'ai réussi à vaincre un lion et un ours. Deux animaux très féroces et mortels. Et ton serviteur a tué le lion et l'ours. Et ce Philistin incirconcis sera comme l'un d'eux. Regarde cette confiance. Puisqu'il a défié les armées du Dieu vivant. David a ajouté, « Le Seigneur qui m'a délivré des griffes du lion. » À qui David attribue-t-il le mérite? À Dieu qui m'a délivré des griffes du lion. On voit la foi de David s'exprimer. Une foi extraordinaire. Le même Dieu qui m'a sauvé des griffes du lion, des griffes de l'ours, il me sauvera des mains de ce Philistin. Et Saül dit à David, « Va, et que le Seigneur soit avec toi. » Qu'est-ce que Saül a vu pour passer de « jeune homme » Tu ne peux pas faire cela. Tu ne peux pas combattre Goliath. Tu n'es encore qu'un jeune homme. Lui, il se bat depuis sa jeunesse. Pourtant, il a changé d'avis en un clin d'œil. Saül a changé d'avis en un clin d'œil. Il a écouté David. Qu'est-ce qu'il a vu pour dire, tu sais quoi? Va te battre. De toute évidence, la conviction de David, sa foi, était si évidente. Elle était si claire que Saül a rapidement changé d'avis. David croyait en Dieu. Frères et sœurs, c'est une grande partie de ce qu'est la foi. C'est la croyance. La foi, c'est croire. Ouvrez votre Bible au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Votre marque-page est au chapitre 17, 1 Samuel 17. Allez au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. La foi, c'est croire. David croyait en Dieu. Chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Qu'est-ce que la foi d'autre? Comment la foi est-elle décrite ailleurs dans les Écritures? Chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance. Ce mot, assurance, signifie certitude. Des choses qu'on espère, la preuve des choses qu'on ne voit pas. La foi est donc décrite comme une substance. Cette substance est cette assurance. Une assurance si réelle, si évidente qu'elle est une substance. Elle est tangible. Une croyance si forte, si claire et si évidente qu'elle est en fait comparée à une substance, quelque chose que vous pouvez voir. Le texte continue en parlant de choses que l'on peut voir, que l'on peut expérimenter à travers nos sens, la vue, l'odorat, l'ouïe. La foi n'est rien de tout cela. Ces choses mènent à des choses que l'on peut voir, entendre et sentir. Mais la foi elle-même, cette assurance, n'est pas quelque chose que l'on peut nécessairement voir. Pourtant, elle est si dense. Elle est si réelle. Elle est tellement présente qu'elle est comparée à une substance. À tel point qu'elle devient la preuve, comme il est dit ici, des choses qu'on ne voit pas. La foi elle-même est la preuve. D'accord, donnez-moi des preuves. Prouvez-moi ce que vous dites. Eh bien, c'est la foi qui devrait être la preuve. C'est la foi, la croyance, la forte conviction, la croyance que Dieu fera ce qu'il a dit qu'il ferait. Elle est tellement réelle qu'elle est une preuve, même si on ne peut pas la voir. La foi n'est pas une chose imaginaire. Le monde rejette souvent la foi. Ce n'est pas vrai. C'est une illusion. Ça n'existe pas. Ce sont des gens faibles d'esprit qui ont foi en un Dieu qu'on ne peut pas voir. Au contraire, ce ne sont pas des gens faibles d'esprit. Ce sont des gens forts d'esprit qui ont foi en Dieu. La plupart des choses que nous vivons dans la vie, nous les vivons à travers nos sens. La foi est très, très différente. Revenons au premier livre de Samuel, chapitre 17. On relit ce récit à des versets fondamentaux sur la foi, des versets qu'on connaît tous, mais dans ce cas, on les voit en action à travers le récit de David face à Goliath. Premier livre de Samuel, chapitre 17, verset 42. Et quand le Philistin regarda autour de lui et vit David, il le méprisa, car il n'était qu'un jeune homme. Goliath pouvait donc voir ce que Saül voyait. Il voyait qu'il s'agissait d'un jeune homme qui se présentait devant lui, beau de teint et d'apparence agréable, comme le dit le verset. Et le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes vers moi avec des bâtons ? Qu'est-ce que cela signifie ?» Et le Philistin maudit David par ses dieux. Et le Philistin dit à David, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Je vais te mettre en pièces. Tu n'as aucune chance, David. » La réponse de David. Alors David dit aux Philistins. Bon, David était-il intimidé? Est-ce qu'il s'est dit, bon, dans quoi je me suis fourré? Et j'ai en quelque sorte sauté ici. Était-il impulsif? Et pensait-il, oh, non. Cet homme ne recule pas. Cet homme est un homme sérieux. La réponse de David. Alors David dit aux Philistins, tu viens vers moi avec une épée, une lance et un bouclier, mais moi, je viens vers toi au nom du Seigneur des armées. C'est le Père, mes frères. C'est tellement incroyable de pouvoir regarder cela et de savoir qui c'est. Le Seigneur des armées, c'est le Père. Le Seigneur des armées, le Dieu des armées d'Israël, que tu as défié. Tu as offensé Dieu, pas moi, pas ses armées. Tu as offensé Dieu, Goliath, dit-il. Aujourd'hui. Verset 46. Le Seigneur te livrera entre mes mains, je te frapperai et je te couperai la tête. Donc, non seulement je te battrai, mais je te couperai la tête. Et je donnerai aujourd'hui les cadavres de l'armée des Philistins aux oiseaux du ciel. Tu penses donc que tu vas me mettre en pièces et donner mes restes aux oiseaux du ciel? Non, 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 c'est l'inverse qui va se produire. Et aux bêtes sauvages des champs, afin que toute la terre sache qu'il y a un Dieu en Israël. Ouah, ouah. C'est vraiment inspirant. Et toute cette assemblée saura que ce n'est pas par l'épée et la lance que le Seigneur sauve, car la bataille appartient au Seigneur, et il vous livrera entre nos mains. C'est une déclaration très audacieuse. Comment pensez-vous que Dieu a réagi en entendant cette déclaration de David? Comment Dieu a-t-il réagi? Mes frères, il a dû être impressionné. Il a dû être très satisfait. Ouvrez votre Bible à l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11. Dieu devait être très content que quelqu'un, parmi tous ces hommes d'Israël, y compris le roi, n'ait pas eu la foi nécessaire, mais que quelqu'un ait été prêt à défendre la vérité. Quelqu'un était prêt à risquer sa vie et à défendre Dieu. Et Dieu en était très heureux. Épître aux Hébreux, chapitre 11. Regardez ici. Verset 6, Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. En parlant de Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu doit d'abord croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur. Dans ce cas, vaincre Goliath, se dresser contre le géant, contre toute attente. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec diligence. Il est clair que David avait cherché Dieu avec diligence. Et avec succès. Cherchez Dieu avec succès. Dieu est content quand on montre la foi qu'il attend de nous. Quand on ne montre pas de foi, c'est impossible de lui plaire, ce qui nous dit que quand on le fait, on lui plaît. Il est content. Comment tu te sens quand quelqu'un croit en toi? Quand tu dis que tu vas faire quelque chose et qu'il te croit, est-ce que cela te dérange ou cela t'attriste? Bien sûr que non, cela te fait super plaisir. Vous savez quoi? Ils me croient. Ils savent qu'ils peuvent compter sur moi. Dieu n'est pas différent, mes frères. Dieu n'est pas différent de cela. Nous pouvons tout faire correctement, mais si nous n'avons pas la foi, mes frères, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Maintenant, je dirais que vous ne pouvez vraiment pas tout faire correctement sans la foi, mais vous comprenez mon point de vue. On peut faire tout ce qu'on pense que Dieu attend de nous, mais si on n'a pas la foi, le genre de foi qu'il attend de nous, c'est impossible de lui plaire. C'est impossible. Voilà à quel point la foi est importante. Il est donc impossible de plaire à Dieu sans la foi. Qu'est-ce qui est possible avec la foi? Revenons à 1 Samuel 17. Qu'est-ce qui est possible? 1 Samuel 17, verset 4. Premier livre de Samuel, chapitre 17, verset 4. Et un champion sorti du camp des Philistins. Revenons un peu en arrière dans le chapitre. Un champion sorti du camp des Philistins, nommé Goliath de Gath, qui mesurait 6 coudées et un empan. Je veux qu'on comprenne vraiment ce que David voyait, ce à quoi il était confronté lorsqu'il s'est montré si audacieux dans ses paroles et dans ses actions. Verset 5. Il avait un casque d'airain sur la tête, et il était revêtu d'une cuirasse. Le poids de la cuirasse était de 5000 cycles d'airain. Elle était très lourde. Il avait des jambières d'airain aux jambes, et un bouclier d'airain entre les épaules. Le manche de ses lances était comme une ensouple de tisserand, et le fer de sa lance pesait 600 cycles de fer. Un homme portant un bouclier marchait devant lui. Il avait donc un homme qui portait un bouclier. Il se tint debout et cria aux armées d'Israël, et leur dit : Encore une fois, pourquoi êtes-vous ici pour me combattre ? Vous n'avez aucune chance. Le truc, c'est que Goliath était super menaçant, super doué, super effrayant. Selon des estimations prudentes, il mesurait 3 mètres. L'ancien basketteur Shaquille O'Neal mesure 2 mètres. Goliath était bien plus grand que cela. Entraîné depuis son enfance à se battre. La menace était vraiment très réelle. L'affronter, mes frères, semblait impossible. C'est ce que pensaient le roi et tous les hommes. On ne peut pas vaincre cet homme. C'est impossible. C'est impossible. Mais mes frères, avec la foi, c'est possible. C'est possible. Hébreux 10. Tu affrontes Goliath. Pourquoi as-tu peur? Parce que tu penses que tu vas mourir. Tu penses que tu vas perdre. Et il va faire ce qu'il a dit qu'il ferait, c'est-à-dire te mettre en pièces et donner tes membres en pâture aux animaux. Tu as peur. Tu as peur de la mort. Tu ne veux pas mourir. C'est pourquoi il semble impossible de vaincre Goliath. Hébreux 10. Verset 38. Hébreux 10, 38. Le juste vivra par la foi. Donc, au lieu de craindre la mort, en affrontant, dans ce cas, Goliath, le juste vivra, le contraire de la mort, évidemment, le juste vivra par la foi. Mais si quelqu'un recule, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Donc, le genre de foi dont David a fait preuve a apporté la vie. Cette foi, cette preuve, cette assurance, ou cette substance, était si réelle que David a vécu selon elle. Et apparemment, mes frères, il ne faut pas énormément de foi. Et vous pensez, d'accord, oh là là, ce grand géant. Du point de vue de Dieu, il ne faut pas beaucoup de foi. Matthieu 17. Du point de vue de Dieu, il ne faut pas grand-chose pour avoir un impact profond. Matthieu 17. C'est là que nous continuons vraiment à examiner le passage de l'impossible au possible. Matthieu 17. Verset 14. Matthieu 17. Verset 14. Nous allons lire un petit passage ici. Et quand ils furent arrivés auprès de la foule. Matthieu 17, verset 14. Et quand ils furent arrivés auprès de la foule, un homme vint se prosterner devant lui. Se prosterner devant Jésus. Et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, car il est lunatique et souffre beaucoup. Souvent, il tombe dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à mes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. Les disciples, les adeptes du Christ, n'ont donc pas pu aider ce jeune homme. Son père l'a donc amené à Jésus lui-même. Alors Jésus lui dit, ô génération incrédule et perverse, combien de temps serai-je avec vous? Vous vous demandez s'il s'adressait aux disciples. Il a bien dit génération, mais cela incluait-il les disciples qui n'avaient pas réussi à accomplir leur tâche? C'est un peu comme si vous aviez la gorge serrée. Vous êtes l'un des disciples. Ô génération incrédule et perverse, combien de temps serai-je avec vous? Combien de temps vais-je vous supporter? Amenez-le-moi. Et Jésus réprimanda le démon, qui sortit de l'enfant, et celui-ci fut guéri à partir de ce moment-là. Il est donc évident que Christ avait le pouvoir de faire cela. Les disciples s'approchèrent alors de Jésus en privé. Quand ils se retrouvèrent entre eux, ils lui demandèrent, « Pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser ?»« Maître, pourquoi n'avons-nous pas pu le faire ?» Tu as donné l'impression que c'était très facile. Et Jésus leur dit, à cause de votre incrédulité. Donc clairement, un manque de foi. La foi, c'est croire. Donc à cause de votre manque de foi. Car, en vérité, je vous le dis. Et c'est là que je dis que, du point de vue de Dieu, il ne faut pas beaucoup de foi pour faire des choses extraordinaires. Reprenons. Verset 20. En vérité, je vous le dis, si vous avez la foi comme un grain de sénevé, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacera. Et rien ne vous sera impossible. On a donc parlé de ce qui est possible et impossible. Si rien n'est impossible, cela veut dire que tout est possible. C'est juste l'autre côté. Une autre façon de le dire. Rien ne vous sera impossible. Tout vous sera possible. Si vous avez la foi comme un grain de sénevé. Pourquoi choisir cette description? Parce qu'un grain de sénevé est très petit. Pourtant, ce grain de sénevé, très petit, presque imperceptible, a la capacité de déplacer une montagne entière d'un endroit à un autre. Appréciez cette image. Appréciez l'image que Dieu peint. Une infime quantité de foi, de la taille d'une graine de moutarde, peut déplacer une montagne entière. Voici la clé, 21. Comment ce genre ne sort-il que par la prière et le jeûne? Dieu leur a donc laissé un peu de répit. Christ leur a laissé un peu de répit. Mes amis, disciples, c'était une situation difficile. Cette situation particulière exigeait un niveau de foi que vous n'aviez pas à ce moment-là et que vous deviez venir à moi, au Père, par la prière. Vous devez venir à Dieu pour pouvoir faire la différence. Un point essentiel se pose, mes frères. Dieu fera sa part, mais nous devons faire la nôtre. Il a parlé de prière et de jeûne. Revenons à 1 Samuel 17. Dieu fera sa part, mais on doit faire la nôtre. 1 Samuel 17. Reprenons au verset 38. 1 Samuel 17, verset 38. Saül arma David de son armure. Il se prépare donc à combattre Goliath. Il donna donc à David son armure et lui mit le casque de bronze sur la tête. Il l'a aussi équipé d'une cotte de mailles. Et David a ceint son épée sur son armure. J'ai lu cela parce que David devait faire sa part. Il pouvait parler avec fermeté. Il pouvait dire à Goliath, « Tu sais quoi, je vais te couper la tête et la donner aux oiseaux et aux bêtes, et tu défies les armures du Dieu vivant. » Je veux dire, il avait tous les mots pour le faire. Il était très éloquent. Il pouvait parler avec beaucoup de fermeté. Mais s'il ne faisait rien, si David ne se rendait pas sur le champ de bataille, dans ce cas, n'essayez pas de revêtir l'armure, alors à quoi tout cela servait-il? Mes frères, on peut dire toutes les bonnes choses. On peut se lever et dire, tu sais quoi, j'ai la foi. Une foi aussi grande qu'un grain de moutarde. je peux déplacer des montagnes. Mais si on ne fait rien, alors tout cela ne sert à rien. Tout cela est vain. Jacques chapitre 2, verset 20. Mais sais-tu, homme vain, que la foi sans les œuvres est morte. Elle est sans vie. Ce ne sont que des paroles. La foi sans les œuvres est morte. Si on n'est pas prêt à agir en fonction de notre foi, elle est morte. Abraham, notre père, n'a-t-il pas été justifié par ses œuvres lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Abraham a dû agir concrètement. Il a dû réellement offrir, commencer à offrir son fils sur l'autel. C'est ce qui a déclenché et montré que sa foi était vivante et forte. Verset 22, voyez comment la foi a agi avec ses œuvres, et par les œuvres la foi a été rendue parfaite. Quand on associe la foi aux œuvres et à la volonté de faire quelque chose, d'agir, alors elle devient parfaite. Elle devient entière. Elle devient très vivante. Vraiment, mes frères, elle devient imparable. Revenons au premier livre de Samuel. On reprend au verset 39. Premier livre de Samuel, 39, et on commence par le début. David mit son épée à son armure. Comme je l'ai dit, il a fait sa part. Mais regarde cela. Il est dit, il essaya d'y aller. Essayer signifie ici qu'il a cédé. Il a hésité. Il essaya d'y aller, car il ne l'avait pas prouvé. Il n'avait pas l'habitude de porter cette armure. Ce n'était pas comme cela qu'il avait combattu dans le passé. Ce n'était pas comme cela qu'il avait montré sa foi. Oui, il était prêt à faire quelque chose. Il était prêt à essayer. D'accord, je vais mettre l'armure. Je vais faire ce que font traditionnellement les gens qui montrent leur manque de foi. Je vais faire ce qu'ils font traditionnellement. Il l'a fait, et il ne se sentait pas à l'aise. Il a essayé. Il a cédé. Il n'avait pas prouvé cette armure. Il n'y était pas habitué. Et David dit à Saül, « Je ne peux pas y aller avec cela. Je ne peux pas porter cela. Ce n'est pas moi. Je ne les ai pas prouvés. » Et David les ôta. Il a donc retiré cette armure. Ce n'était pas quelque chose qu'il avait l'habitude de porter. Il n'était pas à l'aise avec cela. La foi de David suffisait. Il n'avait pas besoin de l'armure des hommes pour réussir, accomplir et faire ce qu'il avait dit qu'il ferait. Il n'avait pas besoin des tactiques ou des méthodes des hommes. Il a fait ce qui lui a permis d'y arriver, c'est-à-dire simplement compter sur Dieu. Verset 40, il prit son bâton dans sa main, choisit 5 pierres lisses dans le ruisseau et les mit dans la sacoche de berger qu'il avait, dans une besace. Il avait une fronde dans la main. C'est la partie qui nous est aussi très familière. David et la fronde. Il prit la fronde dans sa main et s'approcha du Philistin. Le Philistin s'avança et s'approcha de David. L'homme qui portait le bouclier marchait devant lui. Quand le Philistin regarda autour de lui et vit David, il le méprisa, car il n'était qu'un jeune homme, roux et beau de visage. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien ?» On a parlé des bâtons, et il l'a maudit par ses dieux. Et puis, bien sûr, David a dit, « Tu sais quoi ? Je vais te couper la tête. Je vais donner ton corps en pâture aux oiseaux. » Verset 47, et toute cette assemblée saura que ce n'est pas par l'épée et par la lance que le Seigneur sauve. Il n'a pas besoin de ces armes, de cette armure que j'ai enlevée. Car la bataille appartient à l'Éternel, et il vous livrera entre nos mains. Et quand le Philistin se leva et s'approcha pour aller à la rencontre de David, David se hâta et courut à la rencontre du Philistin. Parlez-moi de zèle. Non seulement il avait le courage de se tenir là, la foi de se tenir là, mais il courut vers Goliath. Il était prêt pour le combat. David mit la main dans sa sacoche pendant qu'il courait, en tira une pierre, la lança et frappa le Philistin au front. La pierre s'enfonça dans son front, et il tomba face contre terre. C'est incroyable. Il avait 5 pierres, mes frères, mais il n'en a eu besoin que d'une seule. Il avait 5 pierres et il lui en restait 4 à la fin. David triompha du Philistin avec une fronde et une pierre, il frappa le Philistin et le tua. Mais David n'avait pas d'épée à la main. Tu remarques comment les Écritures insistent là-dessus. David n'avait pas les outils traditionnels et les armes de guerre des hommes. Mes frères, on peut en tirer une leçon. David avait simplement sa foi. On peut en tirer une leçon. On n'a pas besoin d'adopter l'approche des hommes, des gens qui n'ont pas la foi. Quand on fait cela, on abandonne en fait les armes les plus puissantes dont on dispose, à savoir notre foi. David a pris une pierre, une fronde, et il a vaincu le géant. Mais laissez-moi vous poser une question, est-ce que c'est la pierre qui a tué David, ou est-ce que c'est la foi de David, ou est-ce que c'est la pierre qui a tué Goliath, ou est-ce que c'est la foi de David? Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Éphésiens 2, 8 dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres. Je pense à cette pierre que David a lancée, ce n'est pas par les œuvres. Ça lui a demandé des efforts pour faire cela. C'était un effort. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Je pose la question, je répète la question, est-ce la pierre qui a tué Goliath, ou était-ce la foi? Si c'était la pierre, David aurait pu se vanter. Oh là là, regardez comme je suis doué avec la pierre. Regardez ma précision. Non seulement je l'ai touché d'un seul coup, mais je l'ai fait en courant. Je l'ai éliminé d'un seul coup. Regardez-moi. Eh bien, mes frères, il est dit ici, comme nous le voyons dans Éphésiens, que ce n'était pas cette pierre. Ce n'était pas l'œuvre de David. C'était sa foi, afin que personne ne puisse se vanter. Il ne s'agissait pas de David se vantant. Il s'agissait de Dieu pouvant montrer sa puissance et prouver son existence aux armées des Philistins. Revenons au premier livre de Samuel, chapitre 17, pour conclure ce récit. Premier livre de Samuel, chapitre 17, verset 51. Premier livre de Samuel, chapitre 17, verset 51. Premier livre de Samuel, chapitre 17, verset 51. David courut et se tint debout sur le Philistin. Il l'avait déjà frappé au front, et Goliath était tombé. Il se tint donc sur le Philistin, prit son épée, la tira de son fourreau, le tua et lui coupa la tête, comme il avait dit qu'il le ferait. Et quand les Philistins, toute l'armée, virent que leur champion était mort, ils s'enfuirent. Que s'est-il passé? Je pensais qu'ils étaient si audacieux. De toute évidence, leur audace, l'audace des Philistins, était liée à qui? À Goliath. Mais ils ont vu la foi de ce jeune homme, sans armure, qui a terrassé le géant d'un seul coup de pierre, ils ont vu cela et ils ont pris peur. La foi de David leur a fait peur. Les hommes d'Israël et de Juda se sont levés, ont crié et ont poursuivi les Philistins. Maintenant, les hommes du côté israélien qui avaient peur ont vu cette même démonstration de foi. Ils ont pris courage. Mes frères, c'est incroyable de voir l'impact que peut avoir la foi quand on la montre et que les autres la voient. Les gens qui étaient avant super audacieux et arrogants et qui nous méprisaient, quand on montre notre foi et que Dieu intervient, peuvent soudainement devenir super effrayés. Attendre un peu, cette personne est différente. Et en même temps, ceux qui avaient peur avant peuvent maintenant voir notre foi et prendre courage en disant, tu sais quoi? S'ils peuvent montrer leur foi, nous aussi. Dieu est là. Dieu va intervenir. Verset 53. Les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leurs tentes. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem, mais il mit son armure dans sa tente. Je me demande si c'était un souvenir et un moyen pour David de se rappeler la bataille à l'avenir. Quand Saül a vu David aller à la rencontre du Philistin, il a dit à Abné, le chef de l'armée, Abné, de qui est-ce fils? Puis il a cherché à savoir qui était ce jeune homme, et David a commencé à être beaucoup plus reconnu. La foi de David en Dieu lui a valu d'être reconnu, et il a été élevé et promu. Mais le truc, c'est l'impact que la foi de David a eu sur les autres. Notre foi peut inspirer les autres. Notre foi, mes frères, peut même inspirer Dieu. Allez à Matthieu 8. Matthieu 8. Notre foi peut même inspirer Dieu. Matthieu 8, verset 5. Matthieu 8, verset 5. Quand Jésus est arrivé à Capharnaüm, un centurion est venu le voir pour lui demander, Seigneur, mon serviteur est à la maison, paralysé et souffre beaucoup. Jésus lui a dit, je vais venir le guérir. Je vais donc te rejoindre. Je vais revenir dans ton pays et le guérir. Le centurion répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Christ, j'en sais assez sur toi pour savoir que tu n'as pas besoin de revenir chez moi pour guérir mon serviteur. C'est un centurion qui parle. Ce n'est pas un juif ou quelqu'un dont on s'attendrait à ce qu'il croit en Christ et la foi. Verset 9. Car je suis un homme soumis à l'autorité, ayant des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. Et à un autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Cet homme dit donc, je sais comment fonctionne le gouvernement. Je sais comment fonctionne le gouvernement de Dieu. Je suis dans l'armée. Je sais comment cela marche. Jésus entendit cela et fut émerveillé. Jésus fut émerveillé. Je veux dire, imaginez un peu, impressionnez Dieu. Quoi? Jésus fut émerveillé. Et il dit à ceux qui le suivaient, en vérité, je vous le dis, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi, non, pas même en Israël. Mes frères, notre foi peut impressionner Dieu. Cela devrait être notre objectif. Notre objectif devrait être d'avoir une foi qui impressionne même Dieu. Oh là là! Je ne savais pas que mon serviteur en était capable. Capable de montrer sa foi dans des circonstances aussi difficiles. Et, bien sûr, si notre foi peut impressionner Dieu, alors elle peut certainement impressionner les autres. Les gens nous regardent. Les gens vous regardent. Ils me regardent. Ils regardent si on persévère et si on garde notre foi dans des circonstances difficiles. Ils nous regardent pour voir si on garde la foi après la mort d'un être cher. Est-ce qu'on reste dans l'Église? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on continue à se battre et à montrer notre foi quand on a affaire à un conjoint difficile? Ou à un collègue qui nous mène la vie dure? Est-ce qu'on garde notre foi quand une date prophétique, arrive et passe? On en a eu quelques-unes. Pas mal au fil des ans. Est-ce qu'on garde notre foi? Dieu est impressionné par cela. Est-ce qu'on tient bon dans une épreuve difficile, une épreuve de santé? Le genre d'épreuve qui ferait abandonner les gens? Est-ce qu'on garde notre intégrité spirituelle? Encore une fois, Dieu est impressionné par cela. Notre objectif devrait être, mes frères, d'avoir le genre de foi qui émerveille les gens, y compris Dieu. C'est très, très impressionnant. Ça va à l'encontre de toutes les probabilités. Et mes frères, c'est le genre de foi dont David a fait preuve. C'est pourquoi son histoire est si inspirante. C'est pourquoi, même pour le monde, ce film a été réalisé, en reprenant juste cet élément de la vie de David et son combat contre le géant, et il inspire des millions de personnes qui le voient, et il devrait certainement nous inspirer. Mais, mes frères, j'ai dit que David était facile à comprendre, très facile à comprendre. Vous savez, c'était un jeune homme. Il était le perdant. Les gens l'ont ignoré, et ils l'ont fait à leur propre détriment. Mes frères, on peut tous s'identifier à cela. On peut tous voir un peu de nous-mêmes en David. On peut tous se rappeler des moments où on a surmonté des difficultés et où on s'est appuyé sur Dieu. Et cela a marché. On a remporté la victoire. On a fini par vaincre cette situation impossible avec l'aide de Dieu, et on lui a rendu gloire. Et dans certains cas, on a été promu. On a été élevé. On s'est rapproché de Dieu. On est devenu de meilleurs chrétiens. On a pu tirer profit de notre foi dans une situation impossible. Mais vous vous demandez peut-être, d'accord, mais c'est David. Il a combattu le géant. Mais, mes frères, on peut s'identifier à lui, même dans les moments où il a échoué. La foi de David n'était pas toujours irréprochable. Et c'est vraiment là le cœur du sujet. C'est vraiment ce que je veux transmettre à chacun d'entre nous. Et j'ai parlé de nous inspirer dans ce message. C'est le cœur de ce que je veux m'assurer de vous transmettre à tous quand il s'agit de parler de l'histoire de David. La foi de David n'était pas toujours parfaite. Aussi réussie que fut sa foi dans les combats physiques, David a perdu un bon nombre de combats spirituels. Mes frères, les combats auxquels nous sommes confrontés, nous ne combattons pas des géants. Le combat et la bataille auxquels nous sommes confrontés, mes frères, sont spirituels. Les batailles spirituelles, mes frères, sont très particulières. Elles sont très différentes. Cela nous amène vraiment au cœur du combat de la foi, un combat beau et juste, et nous permet de comprendre ce que cela signifie pour nous aujourd'hui. Nous ne combattons pas des géants, nous ne jetons pas de pierres, nous ne portons pas d'armure. Ce n'est pas ce que nous faisons. Ce n'est pas notre expérience. On lit des récits à ce sujet, mais ce n'est pas notre expérience. Ouvrez votre Bible au chapitre 10 de la deuxième épître aux Corinthiens. Ce n'est pas notre expérience. Vous savez, l'histoire de David est incroyable. C'est une histoire incroyable, et on peut s'y identifier de plein de façons, mais bon, c'est une belle histoire, et on y croit, mais comment cela s'applique à nous? Comment cela s'applique à nous? D'abord, cela montre que David peut avoir beaucoup de succès, mais qu'il peut aussi avoir de grands défis quand il s'agit de mener le bon combat de la foi. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 3. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 3. Car nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Donc, même si on est dans la chair, mes frères, on ne se bat pas et, comme je l'ai dit, on ne jette pas de pierre et on ne brandit pas d'épée. Et de nos jours, vous savez, on ne s'arme pas. On n'a pas d'armes à feu. Rire, on ne fait pas tout cela. Donc, Nous marchons dans la chair, mais nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles ne sont pas physiques, mais elles sont puissantes, par Dieu, pour renverser des forteresses, détruire des raisonnements. Beaucoup de nos combats, mes frères, se livrent dans notre esprit, dans notre imagination. Et tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu. La connaissance est vraiment mentale. Elle est dans ta tête. Elle est dans ton esprit. La connaissance de Dieu est amenant toute pensée captive. Cette pensée. Notre champ de bataille est dans le domaine de la pensée. C'est là que se déroule notre combat, dans notre façon de penser. Amenant toute pensée captive à l'obéissance au Christ. Et étant prêt à punir toute désobéissance, lorsque votre obéissance sera accomplie. Notre combat, notre lutte, oppose l'obéissance à la désobéissance. Allons-nous obéir à Dieu et faire ce qu'il veut que nous fassions, ou allons-nous lui désobéir et ne pas faire ce qu'il veut que nous fassions? C'est là que nos combats entrent en jeu. Mes frères, nos combats ne sont pas des combats physiques. On n'a pas d'armes physiques avec lesquelles on se bat. Nos combats, notre combat pour la foi, sont des combats spirituels. Ce sont des combats mentaux. Mais ce sont néanmoins des combats. Les combats spirituels sont particulièrement difficiles. Alors que je me tiens ici devant vous aujourd'hui et que je vous parle, je pourrais être en train de mener un combat spirituel, et vous ne le sauriez pas. Alors que je vous regarde tous, et j'espère que vous m'écoutez attentivement et que vous entendez tout ce que je dis, chacun d'entre vous pourrait être en train de mener une bataille spirituelle pendant que je vous parle, et je ne le saurai pas forcément. La personne assise à côté de vous ne le saurait pas forcément. Si je me battais contre Goliath en lançant des pierres, vous le sauriez. Vous me verriez. Vous me regarderiez et vous diriez, « Oh, oh là là, il se bat. » Mais les combats spirituels sont très différents. Ils sont mentaux. On ne peut pas les voir. Maintenant, les fruits finiront par apparaître et seront visibles. Mais mes frères, chacun d'entre nous pourrait être en train de mener un combat spirituel pendant que je parle, alors que nous entrons dans la semaine, jour après jour. Alors que nous avançons, nous pourrions mener un combat spirituel, et personne ne le saurait nécessairement. Galates 5. Les combats spirituels sont très sournois. Galates 5, verset 16. Je dis ceci, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mes frères, je viens de décrire une bataille. Je viens de décrire un combat. Un combat entre l'esprit de Dieu et la chair. Une guerre. Un combat. Avant le salut, avant d'avoir l'esprit de Dieu, ce n'était pas vraiment une bataille. On était dans la chair. Il n'y avait pas de résistance. Peut-être que notre faible conscience ou ce que les hommes attendent nous retenait à un certain niveau. Mais ce n'était pas vraiment un combat avant d'avoir l'Esprit de Dieu. La chair avait le contrôle. On était dans la chair. Je vivais dans la chair. Je n'avais pas l'Esprit de Dieu pour pouvoir la contrer. Ça semblait normal. Vivre dans la chair semblait tout à fait normal. Peut-être que vous pouvez tous comprendre. C'est la raison pour laquelle les gens dans le monde pêchent, et ils n'y pensent même pas. Ils se disent, qu'est-ce que c'est? Que voulez-vous dire? Tout cela est très normal. Il n'y a pas de résistance. Il n'y a pas l'Esprit de Dieu pour résister. Eh bien, Mes frères, une fois que nous avons reçu l'Esprit de Dieu, cela devient un combat. Maintenant, il y a de la résistance. Et si nous réussissons, cela devient un bon combat. Un beau combat. Mais si on échoue, alors ce n'est pas beau du tout, c'est moche. C'est moche. Il faut l'Esprit de Dieu pour combattre. Romains 8. Romains 8. Verset 1. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Maintenant, on voit à nouveau la chair contre l'Esprit. Car la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ce que la loi ne pouvait faire, parce qu'elle était faible par la chair, Dieu l'a fait en envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et pour le péché, il a condamné le péché dans la chair, afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l'Esprit. La loi a été établie dès le début. Dieu a donné les 10 commandements et attendait des hommes qui les respectent et les suivent. Mais, mes frères, sans l'aide de l'Esprit de Dieu, quand on est dans la chair, on est incapable de suivre ses lois. Dieu le savait. Il a permis à son Fils de venir dans la même chair que celle dans laquelle on sommes prisonniers et qui nous cause des difficultés. Il a permis à Jésus-Christ de venir dans cette même chair et de vaincre le péché. Et en vainquant le péché et en mettant l'Esprit de Dieu à la disposition de nous tous, le même Esprit qui a permis à Christ de vaincre le péché, ce même Esprit est en nous et nous donne maintenant la capacité de vaincre et de respecter la loi. De lutter réellement. D'avoir une chance de lutter contre le péché, qui est enveloppé dans la chair. David, à un certain moment, l'a oublié. Bien sûr, Christ n'était pas encore venu, mais il a oublié cette idée de s'appuyer sur Dieu, sur l'Esprit de Dieu, pour vaincre. Première Chronique, chapitre 21. Regardons juste un exemple ici. Première Chronique, chapitre 21. Un exemple de David qui, jusqu'à présent, dans ce message, avait un parcours exemplaire en matière de foi. Un parcours exemplaire. Mais c'est un exemple de la façon dont on peut échouer. Une Chronique 21. Verset 1. Une Chronique 21. Verset 1. Satan se dressa contre Israël. Je voulais me concentrer là-dessus. On sait qui était à l'origine de ce qu'on va lire ici. Satan se dressa contre Israël et incita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et au chef du peuple, « Allez, dénombrez Israël, depuis Beer-Sheba jusqu'à Dan, et rapportez-moi le nombre, afin que je le sache. » J'ai choisi cette faiblesse particulière de David parce qu'elle est liée à la guerre, tout comme celle avec Goliath. David, qui a beaucoup vieilli, dirige maintenant une armée. Au lieu de partir seul à la tête de l'armée, avec Dieu à ses côtés ou devant lui, il dirige maintenant une armée, et tout à coup, il veut compter le nombre de soldats. Joab répondit, « Le Seigneur multiplie son peuple 100 fois plus qu'il n'est. Mais mon Seigneur le roi, ne sont-ils pas tous les serviteurs de mon Seigneur? Pourquoi mon Seigneur exige-t-il cela? Pourquoi causerait-il cette offense à Israël? Roi, monsieur, à quoi pensez-vous? C'est Dieu qui mène la bataille. Pourquoi voulez-vous que je sorte pour compter le nombre de soldats? Cela n'a pas d'importance. » Joab lui dit, « Cela n'a pas d'importance. On a Dieu de notre côté. Il n'y a pas besoin de faire cela. » David répond, mais les paroles du roi l'emportèrent sur celles de Joab. Joab partit donc, parcourut tout Israël et revint à Jérusalem. David a donc ignoré l'avertissement. Comment Dieu a-t-il réagi? Comment Dieu a-t-il réagi face au fait que David ait ignoré son avertissement et ne se soit plus appuyé sur lui? Verset 7. Dieu fut mécontent de cette chose. Il frappa donc Israël. David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cette chose, mais maintenant, je t'en supplie, efface l'iniquité de ton serviteur, car j'ai agi très imprudemment. Il faut reconnaître que David a très vite compris la portée de sa décision. Prenez-en note, mes frères. L'Éternel dit à Gad, le voyant de David, va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose trois choses. Je te donne trois choix. Choisis l'une d'elles, et je l'exécuterai pour toi. Gad vint donc vers David et lui dit, voici ce que dit l'Éternel, choisis 3 années de famine, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit devant tes ennemis, tandis que l'épée de tes adversaires t'éteindra, ou bien 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel, la peste, et l'ange de l'Éternel ravageront tout le territoire d'Israël. Maintenant, réfléchis à ce que je dois dire à celui qui m'a envoyé. Moi. Prends une décision, fais un choix, David. Je te donne 3 options. Elles sont toutes mauvaises. Fais un choix. Et David dit à Gad, je suis dans une grande détresse. Je suis en difficulté. C'est ce que cela veut dire. Je suis en difficulté. Que je tombe maintenant entre les mains du Seigneur, car ses miséricordes sont très grandes, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Je m'en remets à la miséricorde de Dieu. Je ne peux pas choisir. Ces 3 options sont toutes mauvaises. Je ne peux pas choisir. Je ne sais pas quoi faire. Verset 14. Alors le Seigneur envoya la peste sur Israël. Dieu a pris la décision. Dieu a fait le choix. Le Seigneur envoya la peste sur Israël, et il tomba 70 000 hommes d'Israël. Mes frères, notre manque de foi peut avoir de graves, de très graves conséquences. Dirigeants, prenez note. Dirigeants dans votre foyer, ministres, dirigeants au travail, nous sommes tous des dirigeants. Nous nous formons tous pour être des rois et des prêtres, de futurs dirigeants. Prenez note. Notre manque de foi, mes frères, peut avoir de graves, très graves conséquences. Si on vit selon la chair, on ne peut pas avoir la foi dont on a besoin pour mener le bon combat. Ce combat pour la foi n'est plus beau. C'est quelque chose de très laid, pour reprendre le terme. Mes frères, on ne peut pas vivre selon la chair. On ne peut pas vivre selon la chair. On doit marcher selon l'esprit. Et l'histoire de David est très utile. On peut très bien commencer, mais si on ne garde pas la foi et ne fait pas ce qu'on doit faire, les choses ne se termineront pas bien. Ce qui est inspirant chez David, c'est qu'on sait qu'il a accompli de grandes choses. Il pouvait lire le psaume 51. Et il parlait d'avoir l'esprit de Dieu, demandant à Dieu de ne pas lui retirer son esprit et de renouveler cet esprit en lui. En gros, ramène ton esprit, et ainsi ma foi, là où elle était quand j'ai combattu Goliath. Mes frères, il y a toujours de l'espoir pour nous, mais on doit faire gaffe à ne pas aller trop loin, à ne pas tout mettre en péril en se concentrant sur la chair plutôt que sur ce que Dieu veut qu'on fasse. Mes frères, un moyen efficace, très efficace, d'augmenter notre foi est de la demander à Dieu. Luc 17. Luc 17. Lisons un verset ici. Luc 17. Luc 17. Verset 5. Luc 17, verset 5. C'est un verset très simple, qui s'inscrit dans le contexte. Et les apôtres dirent au Seigneur, augmente notre foi. Mes frères, si vous sentez que vous manquez de foi, Demandez simplement à Dieu de l'augmenter. Augmente ma foi. Cette courte déclaration, cette courte demande, a tellement de poids. Elle montre, d'une part, que vous savez que la source de votre foi est Dieu et non vous-même. Elle montre aussi une humilité et l'aveu que vous n'avez peut-être pas le niveau de foi que vous devriez avoir. Père, augmente ma foi. Hébreux 10. Hébreux 10. Hébreux 10, verset 23. Hébreux 10, verset 23. Ça nous montre comment on devrait demander la foi. Hébreux 10, verset 23. Retenons fermement la profession de notre foi, sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Mes frères, quand on demande cette foi, ne fléchissez pas. Si un fils demande du pain à son père, lui donnerait-il une pierre? S'il lui demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent? À combien plus forte raison, si nous demandons à Dieu la foi, nous la donnera-t-il si nous la lui demandons simplement? Demandez à Dieu plus de foi. Intégrez cela à votre prière quotidienne. Engagez-vous, mes frères, alors que nous arrivons à la fin, engagez-vous à ne jamais abandonner le combat, à ne jamais abandonner le bon combat de la foi. Abandonner est un choix. Vous savez, abandonner quoi que ce soit, c'est un choix. Les choses peuvent devenir difficiles. On peut avoir envie d'abandonner, mais cela reste un choix. C'est toujours un choix. Prenez-en conscience. On peut tous abandonner le combat contre la société de Satan et contre nous-mêmes, et simplement abandonner et se laisser dépasser. Père, c'était trop difficile. J'ai simplement abandonné. Ou bien on peut décider de continuer quoi qu'il arrive. Avoir l'audace de courir vers nos défis, de courir vers les géants qui se dressent dans nos vies. Le secret pour gagner ces batailles de la foi, mes frères, le secret est simplement de croire en Dieu. Ça semble si facile, mais c'est aussi simple que cela. Croire en Dieu. Il mènera nos combats à notre place. La foi, c'est croire, et cette croyance mène à l'action. Si on croit vraiment en quelque chose, alors on agira en conséquence, et c'est ainsi qu'on fera notre part, ce qui permettra à Dieu de faire la sienne. On lit que sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Voyons voir ce qui d'autre est impossible. Hébreux chapitre 6, dernier verset, ou dernier verset. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6, verset 17. Hébreux chapitre 6, verset 17. Dieu, voulant montrer plus abondamment aux héritiers de la promesse. Qui sont-ils? C'est nous. On est les héritiers de la promesse. C'est chacun d'entre nous. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer plus abondamment aux héritiers de la promesse l'immuabilité de son conseil, a confirmé par un serment. C'est donc une confirmation ou un serment de Dieu lui-même, par deux choses immuables, des choses inébranlables, dans lesquelles il était impossible à Dieu de mentir. Il est donc impossible que Dieu mente. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, mais il est aussi impossible que Dieu mente. Nous avons une grande consolation, nous qui avons cherché refuge pour saisir l'espérance qui nous est offerte. Frères et sœurs, il y a une chose merveilleuse, vraiment merveilleuse, qui nous est offerte, un avenir incroyable qui nous attend, cette vie éternelle à laquelle nous nous accrochons, cette espérance à laquelle nous nous accrochons. Si on croit vraiment à ce verset, qu'il est impossible à Dieu de mentir, alors on se battra et on se battra sans jamais abandonner. On continuera et on ira aussi loin qu'il le faudra sans jamais abandonner. Mes frères, on a tous un travail à accomplir. Maintenant, je vous implore, Allez mener le bon et beau combat de la foi.